Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne.
Bien, à présent, je vais passer la parole à Monsieur Bernard Benamou, qui est délégué aux usages de l'Internet au ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, pour une intervention que nous avons hâte d'écouter, ne serait-ce que de par son intitulé, le droit au silence des puces, qui va certainement faire écho aux problématiques que nous avons abordées ce matin. Monsieur Benamou, vous avez la parole, merci. Je vous en prie.
Merci à vous tous et merci évidemment à Georges Chatillon et à tous les organisateurs du master et de cette journée. D'abord, je souhaitais avoir une remarque toute personnelle. C'est un rare plaisir que d'entendre d'anciens étudiants présenter l'activité que l'on peut avoir au sein d'une structure administrative, en l'occurrence la délégation et le projet Proxima qui a été présenté par Charlotte et Rémi, qui ont brillamment participé effectivement à l'établissement de ce portail, qui est une première européenne, peut-être même au-delà, mais enfin pour l'instant on est sûr que c'est une première européenne, et qui a précédé au moins de presque un an la réalisation de l'équivalent américain qui s'appelle apps.usa.gov, et qui est beaucoup moins fourni pour l'instant que ne le sont effectivement les applications, enfin que ne l'est le portail français et européen. Donc ça, c'était un plaisir et bravo encore à vous deux. Je vais vous parler de toute autre chose. J'aurais pu évidemment vous parler de Proxima, mais ça a été fort bien fait, donc je vais vous parler d'un sujet qui est prospectif. Proxima a été conçu pour évidemment anticiper la migration vers les supports mobiles. Quand je dis support mobile, il faut l'entendre au sens le plus large, c'est-à-dire évidemment téléphone, évidemment tablette interactive, mais bizarrement un support qui n'est pas du tout mobile, mais qui va être bientôt la source de grands conflits à la fois juridiques et économiques dans le salon de tout un chacun, à savoir la télévision. À savoir que nous aurons bientôt des téléviseurs qui seront connectés avec les mêmes plateformes, pour les plus technos d'entre vous, iOS, donc le système d'Apple, et Android, qui seront intégrés. La Google TV va naître dans 3 jours, premier je crois, et elle va être lancée à ce moment-là, et l'Apple TV a montré effectivement, il y a quelques semaines, qu'elle permettait effectivement d'utiliser le même système, ce qui voudra dire qu'à terme, on aura des applications qui seront présentes sur les 3 supports différents, télévision, téléphone, tablette, et qui seront accessibles via un même portail, Apple Store, Android Market, peu importe. Et ce n'est que la première étape vers autre chose. Vers autre chose, c'est-à-dire le moment où, en plus des supports mobiles que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire en clair, effectivement, pour l'essentiel d'entre nous, le téléphone, rappelons quelques chiffres. Il a été dit tout à l'heure, fort justement, que la France devrait compter 15 millions de mobinautes à la fin de l'année. À l'échelle mondiale, il faut quand même se rendre compte que l'usage du téléphone mobile est considérable, puisque à l'heure actuelle, on considère qu'il y a 5 milliards d'utilisateurs du GSM, du téléphone. 5 milliards. Il se trouve qu'en Europe, on considère qu'il y a entre 500 et 600 millions, quand je dis Europe, c'est Europe continentale, pas uniquement Europe des 27, entre 500 et 600 millions d'abonnés au GSM, dont plus de 300, entre 300 et 350 millions qui sont abonnés 3G, donc avec des services data, comme on dit, des services de données. Ça, c'est l'immédiat. C'est-à-dire, c'est ce que nous voyons maintenant. Mais les choses ne vont pas s'arrêter en chemin. Parmi les services que nous avons eu l'occasion de financer dans le cadre de Proxima, vous voyez déjà l'étape d'après. L'étape d'après, c'est des services où un même outil, donc un téléphone, peut être connecté à un glucosemètre pour le contrôle du diabète, là encore, sans fil, à un tensiomètre pour les hypertendus, plus sophistiqué encore, et ça a été annoncé cette semaine, à un oxymètre pour la mesure de l'oxygène dans le sang pour les personnes qui font des apnées du sommeil, donc avec une application qui permettra de mesurer si la personne fait des blocages respiratoires la nuit, ce qui constitue une cause de santé publique importante, qui constitue un risque pour plus de 3 à 4 millions de personnes qui ont des risques d'hypertension, d'infarctus, d'hypertrophie, donc de cardiopathie, mais aussi des risques de vigilance, Parce que quand on ne dort pas, par définition, on somnole la journée, et donc on est un danger au volant, et ainsi de suite. Donc c'est une cause directe et indirecte de pathologies et de risques graves. Et donc vous voyez, là on est dans la connexion de l'outil téléphone à un outil, à un capteur, sans fil, dans l'environnement de la personne. Ça, c'est ce que nous voyons maintenant, là encore. Ce n'est pas de la science-fiction, ce sont des choses qui existent. L'étape d'après, encore plus loin, sera le moment où ces capteurs, ou ces puces, puisque ces capteurs sont basiquement des puces, seront disponibles sur bien d'autres objets que les objets électroniques classiques. Alors, déjà, un petit rappel. Quand on parle de puces, on parle de puces RFID. RFID voulant dire Radio Frequency Identity, donc identification par une puce à radiofréquence. Pour faire simple, vous, francilien que vous êtes, enfin pour l'essentiel, j'imagine, ou en tout cas obligé que vous l'êtes pour le master, vous avez une puce Navigo sur la carte. Cette puce, c'est une puce RFID qui vous identifie au passage des bornes RATP. Eh bien, cette puce, c'est quoi ? C'est un petit processeur, tout petit, et une antenne. Deux choses à savoir. Il n'y a pas, dans cette puce, de pièce mobile. Et il n'y a pas de source d'énergie. Alors, excusez-moi là encore d'être un peu technique, mais dans nos domaines, si on ne l'est pas, malheureusement, on est souvent inefficace. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de pièce mobile et pas de source d'énergie fait que la puce est activée au moment où on envoie sur elle un petit faisceau d'énergie qui la réactive, qui la réveille. Elle va envoyer via son antenne son identification, son code, qui va être perçu à ce moment-là par le lecteur, soit sous forme de petits appareils portables, soit sous forme de justement de bornes dans des transports, dans des métros, dans des bus, etc., ou toute autre sorte de lecteur tel qu'ils peuvent exister. Cela, c'est l'usage actuel où la puce RFID sert uniquement d'identifiant. Elle sert d'identifiant pour un moyen de transport, elle permet le cas échéant d'effectuer une transaction sur un serveur central, mais globalement, la puce, comme je vous le disais, c'est une chose très simple. C'est un outil très simple, et contrairement à l'Internet mobile plus encore, qui est une chose récente, l'Internet mobile, on peut considérer que même si le terme smartphone a été inventé il y a plus de 10 ans par Microsoft, qui pour tout dire n'en a pas fait grand-chose, le vrai réveil, la vraie renaissance de l'Internet mobile, c'est effectivement une chose toute récente, 2007, avec les sorties progressives donc d'iPhone, Android et toute une génération de nouveaux téléphones. Bien, les technologies RFID, contrairement à celles-là, sont des technologies beaucoup plus anciennes. La technologie RFID de radiofréquence est utilisée à des fins d'identification des objets, en particulier dans la logistique, dans l'industrie, et en particulier dans l'industrie aéronautique, depuis plus de 40 ans. Entre 40 et 50 ans. Ce sont des technologies anciennes. Il se trouve que là, la nouveauté, c'est que cette technologie va rencontrer deux autres technologies. L'Internet, le réseau, et les technologies dites de connexion sans fil, c'est-à-dire le Wi-Fi, le GSM, toutes les technologies de connexion mobile. Et par définition, ces trois technologies mises ensemble donnent un cadre nouveau, une extension de l'Internet qu'on appelle dans notre jargon un Internet des objets, qui au-delà des ordinateurs, au-delà des téléphones, au-delà des téléviseurs, va connecter tout simplement tout. Alors tout, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par exemple, la bouteille d'eau que vous achetez au supermarché, pour l'instant, elle est dotée d'un code barre, un identifiant qui dit « ceci est une bouteille d'Evian d'un litre et demi ». Voilà. Et donc le code barre, un code EAN pour reprendre les termes techniques, dit cela. Pour l'instant, c'est un code générique. Ça ne dit pas « ceci est la millionième bouteille d'Evian ». Non, cela dit « c'est une bouteille d'Evian ». À terme, pour des raisons de traçabilité alimentaire, maîtrise de la chaîne du froid, contrôle de l'origine alimentaire de telle ou telle viande ou de tel ou tel aliment, information relative à l'environnement, enfin au caractère d'empreinte écologique, d'empreinte carbone d'un produit, toutes sortes d'informations qui seront disponibles le seront via un identifiant unique, qui ne sera pas un identifiant générique. Un identifiant unique, pour tout vous dire, ça ressemble à ce que vous connaissez vous et que vous utilisez quotidiennement, qui s'appelle par exemple une adresse IP. Une adresse IP, c'est un identifiant qui, à un moment donné, sur le réseau, est unique. Vous ne pouvez pas avoir deux ordinateurs qui possèdent la même adresse à un moment donné sur le réseau. Et il se trouve que les objets seront progressivement dotés d'identifiants uniques, avec évidemment un nombre important de chiffres, puisqu'on pourra potentiellement mettre des puces sur n'importe quel objet, que ce soit des vêtements, des denrées alimentaires, des denrées industrielles, enfin tout, des voitures, des meubles, des bâtiments, des œuvres d'art, ça se fait déjà, etc., etc., etc. Dans l'univers industriel tel que nous le connaissons, vous voyez les voitures Audi, qui sont déjà entièrement équipées pour ce qui est de leur carnet d'entretien de puces RFID. Dans un registre plus luxueux, entre guillemets, tous les sacs Vuitton sont équipés de puces RFID pour des raisons de contrefaçon, de lutte contre la contrefaçon, etc., etc. Donc vous voyez, progressivement, ces objets qui vont être équipés d'un identifiant vont aussi être connectés à Internet. Et c'est là la nouveauté. C'est-à-dire, en clair, qu'on va pouvoir interroger cet identifiant, et plutôt que de stocker dans la puce que l'on souhaite être la plus petite possible et la meilleure marché possible, on va stocker l'information sur le réseau. Donc chaque objet aura, entre guillemets, une page web le concernant, une information le concernant, stockée quelque part dans le réseau. Ce qui veut dire qu'on sera capable de modifier cette page au fur et à mesure de la vie du produit, au-delà du point de vente. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, la logistique des distributeurs, des Carrefour, des Auchan, des casinos, s'arrêtait pratiquement net au moment de la vente. Maintenant, on va aller plus loin. On va aller au moment où, effectivement, ces puces seront utilisées pendant tout leur cycle de vie, y compris jusqu'au recyclage. On pourra indiquer les conditions de recyclage et on pourra suivre le produit depuis sa production, son assemblage, sa vente, sa vie et son recyclage, la totalité du cycle industriel. Et donc, c'est toutes ces informations qui vont progressivement être accessibles aux usagers, selon toute vraisemblance via des terminaux mobiles, qui, comme vous le savez peut-être, sont sur le point de s'équiper de lecteurs RFID, la première utilisation de ces lecteurs étant tout ce qui sera transaction, ce qu'on appelle dans nos jargons mobile paiement ou mobile commerce, M-commerce ou M-paiement, qui constituera un enjeu de sécurité, mais aussi un enjeu économique majeur. Donc, la question est que nous allons nous retrouver dans un environnement où il n'y aura pas quelques puces, mais des centaines de milliards de puces. Chaque individu gère dans son environnement quotidien plusieurs milliers, certains disent plusieurs dizaines de milliers d'objets, au sens large. Depuis tous les disques que vous avez, les vêtements que vous avez, les bouquins que vous avez, si vous comptabilisez individuellement chacun de ces objets, vous obtenez quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers. Vous multipliez ça par des milliards, et vous obtenez effectivement, potentiellement, un nombre de puces extraordinaire. Et j'en reviens à leurs caractéristiques techniques. Elles sont sans source d'énergie interne et sans pièces mobiles. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie tout simplement qu'elles sont immortelles. C'est-à-dire qu'une puce, une fois installée quelque part, surtout si c'est dans un bâtiment par exemple, peut survivre à 2, 3, 4 générations de ses utilisateurs. Une fois qu'elle est opérationnelle, elle parle sans que vous puissiez vous y opposer. Parce que tout simplement, elle réagit à l'impulsion qu'on lui envoie. Elle dit « je suis la puce numéro tant ». Quand la puce numéro tant permet de savoir que ce que vous transportez dans votre sac est un livre, un objet religieux, un objet ou un texte relatif à des pratiques philosophiques, voire sexuelles, un objet médical relatif ou lié à une pathologie, vous imaginez la transparence dans le pire des sens que cela peut générer. La transparence dans le sens Big Brother et dans le sens d'une dictature absolue de la connaissance par l'autre. On parle beaucoup à l'heure actuelle des réseaux sociaux comme outil de transparence extrême des gens, de Facebook, de Twitter, mais Facebook et Twitter correspondent malgré tout à une logique volontariste, c'est-à-dire que vous postez de l'information, vous changez votre statut, vous postez un tweet. Non, là, c'est l'information qui est captable, en anglais on dit skimming, c'est-à-dire la capacité que l'on a à arracher de l'information à la personne. Si nous devions nous diriger à l'échelle de l'Union européenne, mais plus généralement à l'échelle mondiale, puisque ces technologies sont nécessairement de nature mondiale. Les identifiants uniques des objets sont forcément des identifiants mondiaux. Si on devait se diriger vers effectivement une société où aucune personne ne pourrait être certaine que ce qu'elle transporte, ce qu'elle a sur elle, qu'elle considérait jusqu'alors comme étant du domaine privé, ne peut être justement maintenu privé, c'est tout simplement des siècles et des siècles d'histoire de la vie privée qui seraient remis complètement en cause. Des technologies aussi banales que l'argent liquide. L'argent liquide, c'est quoi ? C'est un outil de protection de la vie privée pour la personne qui fait une transaction. Jusqu'à présent, quand vous achetez un livre, vous pouvez le payer en liquide, vous repartez avec le livre, et personne ne sait, hormis le vendeur, qu'il vous l'a vendu. Et si vous l'avez sur vous, personne ne sait que vous êtes en train de le lire. Si, à partir du moment où l'objet possède une puce, on peut deviner la lecture que vous avez, vous imaginez effectivement les réactions. Si on vous prend, entre guillemets, en flagrant délit d'avoir sur vous un médicament contre l'angine de poitrine, votre assureur peut remettre en question le fait de vous faire un prêt sur 30 ans, ou de vous accorder telle ou telle facilité dans le cadre de votre vie. C'est, pour ceux qui ont en tête des souvenirs cinématographiques, c'est toute une série de films, depuis Minority Report, en passant par Gattaca. Enfin bon, en gros, c'est un déterminisme social que nous ne voulons pas. Et c'est donc pour cela que, pendant la présidence de l'Union européenne assurée par la France, nous avons interpellé nos voisins et nos partenaires européens en leur disant « il nous faut créer les conditions de la maîtrise par le citoyen ». De la même manière que la régulation de l'Internet dans son entier doit répondre à des principes démocratiques, de la même manière, l'évolution de l'Internet, la connexion au-delà des ordinateurs et des machines que nous connaissons aujourd'hui, doit répondre, là aussi, à des principes démocratiques, c'est-à-dire des principes de contrôle par le citoyen. Or, à l'heure actuelle, comme je vous le disais, on est face à des outils qui sont beaucoup, beaucoup plus compliqués, entre guillemets, qu'un site web où il suffit de dire « je veux que la personne puisse avoir un droit de regard sur l'information qui est collectée ». Par définition, l'opt-in, pour reprendre les termes du commerce électronique, c'est une chose simple, on dit « je veux que la personne puisse se désengager, ne pas recevoir du courrier si elle ne le souhaite pas », etc. Là, on est, pour nous régulateurs, pour nous acteurs de la régulation, on est relativement tranquille. Tandis que là, lorsque vous avez une puce qui va parler pendant des dizaines ou des centaines d'années de ce qu'elle est, et donc de l'objet sur lequel elle est posée, il faut se poser des questions sur comment faire en sorte qu'elle ne parle plus. D'où le droit qui a été évoqué, au silence des puces. Alors évidemment, c'est un jeu de mots. Pour les anglophones parmi vous, c'est « silence of the chips ». Ça a un peu proximité avec « chips », les moutons, les agneaux, enfin, vous voyez à peu près l'idée. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est que derrière un nom poétique se cache une réalité qui n'est pas du tout. C'est-à-dire faire en sorte que les industriels qui vont créer ces puces pour les années à venir soient obligés de les créer d'une manière qui permettra l'extinction. C'est-à-dire le fait de pouvoir les éteindre, les rendre silencieuses, non interrogeables, et donc intégrer dans leur fonctionnement même, dans leur architecture, et ça reprend les propos d'un ami et collègue professeur que je vous invite à lire, et qui est peut-être le tout meilleur juriste de l'Internet vivant, à savoir Lawrence Lessig, qui a dit « le code informatique crée du droit, crée de l'organisation sociale, et ce code, cette architecture des codes informatiques doit être sous le contrôle du politique, c'est-à-dire du citoyen. » Eh bien, dans ce cas, dans le droit au silence des puces, on est précisément là. Il faut que les puces puissent être éteintes volontairement par le citoyen. C'est-à-dire, en clair, le scénario que nous privilégions, c'est quoi ? Puisque je vous parlais d'opt-in pour le commerce, c'est dire, la puce va être désactivée de manière automatique au point de vente et réactivée au cas par cas et volontairement par l'utilisateur lui-même, et ne pourra par la suite être interrogé que s'il en donne l'accord, s'il donne explicitement son accord au fonctionnement de la puce. Et vous voyez, c'est exactement l'inverse de ce qui s'est produit pour Navigo, que je citais tout à l'heure. Navigo, la RATP a fait une erreur de communication majeure en disant « l'anonymat, vous le payez ». La base, c'est le fait que l'information soit stockée et effectivement accessible par nous, agence, enfin régie publique, mais pour avoir un... Alors, j'ai un doute sur le nom de l'abonnement en question. Oui, non, pas le prix, le nom. C'est, je ne sais pas si c'est pas évasion, un truc comme ça. L'abonnement anonymisé. Enfin bon, vous le retrouverez. Eh bien, typiquement, l'idée, c'est d'aller exactement à l'encontre de ça. C'est-à-dire faire en sorte que la protection soit l'option par défaut. Et non pas attendre qu'une personne soit suffisamment éclairée pour se dire « Ah oui, il y a peut-être un risque, donc je vais désactiver ma puce. » Non, c'est « Je souhaite bénéficier d'un service, donc je vais l'activer sélectivement. » Et c'est donc, vous voyez, partant de cela, alors même que ce paysage dont je vous parle est à peine en voie de constitution, on a reçu un écho extraordinairement favorable de nos partenaires, de nos 26 partenaires européens, et on a obtenu que cela devienne la position de l'Union européenne. Sous l'impulsion de la France, ce nom, ce droit, est devenu partie intégrante des recommandations du Conseil, alors je vous fais grâce des organisations européennes, le Conseil étant l'institution la plus élevée dans l'Union européenne, celle qui est l'institution politique représentant effectivement les leaders politiques, les chefs de gouvernement et d'État. Et par la suite, ça a été repris par la Commission européenne dans ses recommandations et le Parlement. Fait que maintenant, on a l'exécutif, la tête et le Parlement et le législatif de l'ensemble européen qui sont d'accord sur ce point. S'il y a, et on le pense, une opportunité de développement économique liée au développement de ce qu'on appelle donc l'Internet des objets, il faut qu'il se fasse ce développement en accord avec les principes fondamentaux qui ont prévalu dans le développement de nos sociétés, y compris évidemment la protection des libertés. Et pour nous Français qui sommes attachés à la loi de 78, à la protection des données personnelles, c'est une notion importante qu'on a souhaité défendre et que nous avons réussi à défendre à l'échelle du continent, pas uniquement à l'échelle du pays. Et c'est là la nouveauté. Et c'est aussi ça que je souhaitais vous dire, et je vous souhaite à tous, d'une part, de pouvoir continuer dans ce secteur, parce que je sais, et il n'est pas besoin d'y revenir, à quel point ce sera un secteur stratégique pour les années qui viennent. Vous y serez tous associés à des titres divers dans vos activités. Mais il faut avoir en tête que le droit n'est pas forcément l'expression, dans ces domaines, d'un pur rapport de force. On pourrait le penser, ce n'est pas toujours le cas. Et dans ce cas, on a vu effectivement une préoccupation de protection des individus, prévaloir sur ce que l'on imaginait être au départ la position industrielle. Or, en fait, quand on est suffisamment pédagogue dans ce domaine, auprès des industriels, ils comprennent très vite que leur intérêt, c'est que la confiance prévale. Si la confiance ne prévaut pas, si des scandales à répétition, comme on le voit sur les réseaux sociaux, que je n'accable pas, mais on voit bien qu'il y a toute une série de problèmes qui se sont posés autour de Facebook en particulier, si la confiance est remise en cause, tout simplement, les gens s'en vont. Ils votent avec leur clic et ils s'échappent. Et ça peut constituer un frein, voire même la destruction de modèles économiques tout entiers. D'où l'intérêt pour nous de concevoir un Internet du futur qui soit justement en accord avec les principes et les valeurs des pays de l'Union européenne dans ces domaines. Et je terminerai, puisque j'ai été trop long, je terminerai en disant que là-dessus, étrangement, nous nous apprêtons à voir, aussi bien d'ailleurs sur les questions de protection de la vie privée sur les réseaux sociaux que sur l'Internet des objets, bizarrement, nous voyons les États-Unis progressivement bouger, les lignes bougent, parce qu'ils se rendent bien compte que faire passer le client consommateur avant le citoyen peut causer justement cette tension autour de la confiance. Et qu'à un moment donné, lorsque la confiance est rompue, il est bien plus difficile de la rebâtir. Et donc on a vu, de la même manière pour les réseaux sociaux, à chaque étape, lorsque Facebook a été menacé, ils ont reculé sur les données personnelles. À chaque fois. Et ça a été vrai de Google, ça a été vrai de Facebook, ce sera vrai de Twitter, et ce sera vrai de tous. Parce que l'intérêt, c'est de conserver ce lien avec le citoyen usager, et ne pas considérer effectivement qu'à un moment donné, le droit du commerce est bien au-dessus de toute contingence philosophique, morale ou personnelle. Ce n'est pas le cas. Et plus ces technologies se rapprocheront de la vie intime, comme il a été dit par rapport à Proxima, où c'est la vie quotidienne, où sont des choses dans les transports, dans la vie de tous les jours, des personnes handicapées, des personnes pour la santé, des personnes âgées, de l'éducation, etc. Plus les technologies se rapprochent de l'humain dans sa vie, plus il est nécessaire qu'elles en épousent effectivement les contraintes, les valeurs. Sinon, tout simplement, elles seront rejetées hors du champ. De la même manière que ces technologies mobiles ont mis 10 ans avant d'arriver à maturité, parce que tout simplement, elles étaient compliquées, peu ergonomiques, et que les gens les ont refusées. Et là, à l'époque, uniquement pour des raisons de fonctionnement. Ce pourrait être bien plus radical encore s'ils sentaient que ces technologies remettaient en question toute ou partie de leur vie, ou toute ou partie de leur capacité sociale à interagir avec tel ou tel, ou à chercher tel ou tel métier, ou à exercer telle ou telle activité. Merci à vous tous.